Bienvenue dans Impact Positif. Je m'appelle Sylvia Micon et je suis ravie de vous accompagner, le temps de vous faire découvrir un parcours, une démarche, une personnalité. Pour ce podcast, une seule promesse, donner la parole à celles et ceux qui contribuent à trouver des solutions et à les faire circuler pour réduire les inégalités, mieux vivre ensemble, mieux produire et consommer, protéger la planète. Ils sont entrepreneurs, scientifiques, étudiants, artistes ou simples citoyens. Je veux comprendre leur approche, qu'est-ce qui les a fait bouger, quels sont leurs conseils, que veulent-ils transmettre ? Car dans Impact Positif, nous pensons que tout le monde, à son échelle, peut faire bouger les lignes et ça commence évidemment avec vous.
Lorsque tu veux faire de l'impact, en fait, t'as le double problème parce que tu veux avoir aussi une bonne idée, quelque chose qui aide des gens, qui a de l'impact. Mais en fait, si t'as l'impact et que ton projet il marche pas, il grossit pas, t'as peu d'impact aussi. Donc en fait, c'est presque deux fois plus dur parce que t'as à la fois besoin de faire un projet qui marche et qui est capable de passer à l'échelle et en même temps d'avoir un modèle qui est vertueux. Donc dans tout ça, il faut se constituer une équipe, il faut avoir un solide et surtout faut pas avoir peur d'être ambitieux.
Malgré la difficulté, Paul Duhan n'a jamais laissé tomber. Il a beau avoir moins de 30 ans, il s'accroche à son rêve, parvenir à bâtir un service public citoyen, mettre ses solutions digitales au service du bien commun. La crise du coronavirus lui a donné raison et les demandes explosent. Les solutions digitales ne sont pas tout, dit-il, mais elles sont en tout cas une partie de la solution. Merci infiniment de nous suivre pour cette troisième saison. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le et notez le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 3, épisode 1, un diamant. Paul Duhan, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de participer à Impact Positif. Alors, tu es un entrepreneur social, tu as fondé Base Impact il y a 6 ans. C'est une ONG qui veut être le fer de lance d'un nouveau service public citoyen. On va y revenir en détail, hein, et tu vas nous raconter tout cela. Tu es tout jeune, mais tu as déjà un certain parcours d'étudiant brillant à l'innovateur social. Si, j'insiste, t'es jeune. Tu as eu une obsession depuis toujours, utiliser ton savoir, la technologie, les algorithmes au service du bien commun, bref, te rendre utile. Et c'est cela que l'on va voir avec toi, les objectifs de Base Impact, ce que tu as déjà réalisé et vos futurs projets avec ton équipe. Mais tout d'abord, une petite question, comment est-ce que tu regardes ces 10 dernières années, hein? Tu viens de Trappe, tu es parti étudier à Berkeley, en Californie, c'est l'une des meilleures universités au monde. Tu as été data scientist dans la Silicon Valley avant de créer ta propre boîte, puis de revenir en France pour y installer tes projets. Entre-temps, tu as fait la une d'un magazine, on a beaucoup parlé de toi, il y a mis un documentaire sur toi. Tu es le plus jeune fellow Ashoka, c'est une prestigieuse fédération internationale d'entrepreneurs sociaux. Bref, ça paraît quand même étourdissant, même si tu le dis toi-même, il y a une nouvelle génération qui arrive. Mais enfin quand même, comment tu regardes ces années derrière toi ?
Déjà, je pense qu'il va falloir que je t'embauche pour écrire... pour écrire ma bio sur Twitter. Je t'avoue que ça paraissait bizarre de se dire qu'il y a 10 ans qui ont passé. En fait, c'est 10 ans où j'ai beaucoup essayé de chercher ma voie, trouver un peu quelle était ma place en fait dans cette société. Je pense que c'est finalement pour ça que j'ai sauté beaucoup un peu en zigzag entre différentes choses. Tu vois, mes parents voulaient absolument que je fasse polytechnique, sinon c'était l'horreur pour la famille, pour l'honneur de la famille. Du coup, par rébellion, je dis non, en fait, je vais aller à Sciences Po, je vais faire plutôt de l'intérêt général, etc. Puis là, je me dis en fait, les sciences, les mathématiques, l'informatique, ça m'intéresse. Donc, je m'inscris à la fac à côté. Et puis je me dis en fait, c'est débile, il y a tellement de connexions à faire entre les deux. C'est là que j'arrive aux États-Unis. Je me dis tiens, j'ai envie de faire de la recherche ou peut-être la finance, je suis pas sûr. Et là, je vois que il y a le monde des startups où on peut créer des choses. Donc, en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de voir la différence avec ce que je fais. Et j'ai envie de voir, en tout cas, le delta dans ce que je fais. Donc, j'ai envie de... ça m'attire, le monde des startups. Ce que tu vois vraiment, en tout cas, tu vas faire des bouts de code et tu vois tout de suite comment ça va toucher des utilisateurs, voire des millions d'utilisateurs. C'est ça, la promesse. Je fais ça, mais je me dis, ça manque peut-être un peu d'impact parce qu'on fait plein de projets qui sont très excitants, mais...
Mais quand même, j'insiste, Paul, tu t'es quand même allé assez rapidement après tes études. Je le dis, tu deviens data scientist, t'as été un des premiers chez Even Bright.
Ça, j'avais 19 ans à l'époque.
19 ans, exactement. Mais tu quittes quand même rapidement ton poste pour fonder Base Impact à 21 ans, je crois. Il y en a qui mettent des années quand même à se rendre compte qu'il faut changer de voie. Toi, t'as pas mis longtemps, t'aurais pu te dire, c'est super, je suis ingénieur dans la Silicon Valley, j'y reste un petit peu.
Écoute, il y a deux choses, tu vois. La première, je te disais, c'est à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que quand j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose, c'est un peu, je me disais, il faut presque pivoter un peu dans sa vie. Et je vais essayer de rajouter quelque chose en plus. Et dans la Silicon Valley, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé beaucoup de choses que j'adorais. Par contre, il manquait peut-être cette notion un peu de sens, tu vois. Et je pense, comme beaucoup ici, j'ai toujours réfléchi à, je me suis demandé comment est-ce que je peux être utile, tu vois, comment je peux trouver un peu un sens à ma vie. Et souvent, enfin, pendant longtemps, la réponse était, je suis pas sûr. Enfin, tu vois, je suis pas sûr d'avoir un super pouvoir. Enfin, pourquoi moi plutôt qu'un autre? J'ai pas l'argent de Bill Gates pour faire une fondation. Je suis pas spécialement plus fort ou plus populaire que d'autres pour faire de l'awareness sur un sujet, etc. Et donc, tu vois, c'était un peu toujours un peu cette quête de, finalement, ok, c'est bien beau de s'engager, mais en quoi je vais faire une différence? Et en fait, c'est justement en arrivant dans la Silicon Valley, en étant data scientist, que je me dis, là, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que là, finalement, ce super pouvoir, on était en 2012, 2013, le moment où la data science, ça commence à devenir un très, très gros truc. Enfin, l'IA, ça commence à devenir un peu mainstream. Mm. Et je me dis, là, je suis justement un peu sur l'avant-garde d'une technologie qui a l'air d'avoir vraiment beaucoup de promesses sur l'industrie. Peut-être que si là, je me dis, on va l'appliquer à des sujets d'impact social, ce qui était encore assez nouveau à l'époque, hein, qu'on parlait très peu de tech for good, data for good. Maintenant, c'est un peu éculé, quoi. C'est devenu presque un terme marketing. Mais à l'époque, voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose et c'est là qu'il fallait senser.
Alors, je parlais de ton obsession tout à l'heure de te mettre au service de l'intérêt général. Tu viens d'en parler aussi. Ça vient de quelque part. Tu es fils d'immigrés chinois. Tu as pu bénéficier de ce qu'on appelle de l'ascenseur social français, hein, sur ton parcours qui a été le tien. Tu as pu t'émanciper grâce à tes études, Sciences Po, tu l'as dit, la fac, Berkeley. Est-ce que tu as eu le sentiment à ton tour que toi aussi tu devais redonner quelque part?
Tout à fait. J'ai vu en tant qu'immigré à quel point en fait tu as alors à la fois un peu un décalage entre un peu le hasard de comment tu es né et les opportunités qui te sont disponibles dans la vie, c'est quand même un fait. Mais en même temps, à quel point est-ce que le service public c'est super important, enfin nous, on a pu bien s'intégrer parce que, enfin, par les études, par tout un tas de programmes. Enfin, notre premier appartement, c'est un HLM. Donc tout ça, en fait, ça a aussi contribué à ce qu'on puisse réussir. Donc ça donne à la fois l'envie de redonner, et puis en même temps, il y a un truc que j'ai trouvé assez fort, en fait. C'est, tu te rends compte à quel point, en fait, il en faut finalement assez peu pour basculer d'un côté ou de l'autre de la barrière.
Et tu attribues à quoi justement ce petit peu?
Alors c'est beaucoup les opportunités qui sont données, c'est souvent aussi les rencontres qu'on fait qui te, enfin je serais pas là si j'ai pas fait un certain nombre de bonnes rencontres. Enfin ça va par exemple de la directrice d'école primaire qui avait pour objectif depuis 20 ans à essayer de placer un de ses étudiants dans l'école sur concours, enfin le collège lycée sur concours un peu côté du département. Et en fait c'est ça qui m'a permis aussi de sortir de ce groupe-là. Bon, après, ce qui est dommage, c'est qu'il ait besoin de sortir de cet environnement pour pouvoir réussir. Donc voilà, c'est aussi là que c'est aussi tout le paradoxe de la chose, c'est comment on fait en sorte que ce soit quelque chose qui soit plus universel. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. Et puis des rencontres comme ça, j'en ai fait plein dans la vie, y compris pour pouvoir aller aux États-Unis, puis pour y rester, puis pour bosser dans la Silicon Valley, etc. Et même pour me convaincre que je pouvais aussi lancer une ONG alors que tout le monde disait que c'était complètement fou. Donc voilà, c'est un ensemble de rencontres. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit disponible pour tout le monde.
Oui, c'est ça. On dit souvent, Paul, que l'ascenseur social, il est en panne, il est en dérangement aujourd'hui. Il faut aujourd'hui plus de 6 générations pour voir un Français partir de tout en bas de l'échelle des revenus, atteindre la moyenne. C'est un ascenseur, et ce que tu dis le prouve, qui ne bénéficie finalement qu'aux élèves brillants comme toi, et les autres sont souvent au bord de la route. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une fatalité?
Et encore, tu sais, moi, j'ai failli être. J'avais un côté cancre au lycée. Alors, effectivement, j'étais pas foncièrement mauvais, mais j'avais vraiment le profil pas scolaire où j'aurais pu aussi très bien sortir du système. Enfin, j'avais vraiment le profil qui avait soit 20, soit 0. Et étant d'une école qui était extrêmement stricte, ça disait oulala, non, lui, il faut pas, il est pas dans le moule. On va pas le recommander à une prépa. Enfin, j'avais même des profs qui disaient au collège. Peut-être qu'en fait tu devrais faire une prépa parce qu'il faut justement te casser pour que tu puisses te reconstruire dans le moule parce que sinon tu vas tout gâcher vu que t'arrives pas à être scolaire. Enfin c'est un truc de dingue. et finalement je me suis beaucoup mieux retrouvé aux États-Unis, mais bon là aussi j'aurais pu très bien pu ne pas y arriver.
Vrai.
J'aurais très bien pu très bien pu en rester là et être complètement dépressif toute ma vie. Donc comme quoi c'est pas si simple. Et par rapport à tes histoires de 6 générations, c'est marrant, ça fait un peu écho à un proverbe chinois que me disait ma mère. C'est bon, il faut 3 générations pour arriver quelque part. Une première génération qui a les problèmes, la deuxième génération qui s'en émancipe, et la troisième génération qui bénéficie vraiment en fait des fruits de tout ce que les générations ont planté.
Tout le travail, ouais.
Alors ça, je trouve ça assez fort. Après, la question, voilà, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer ça ? Et tu parlais tout à l'heure du fait que j'ai fait les choses un peu rapidement. Pour moi, c'est pas forcément une marque de fierté. Je pense au contraire, ça m'a un peu aidé, tu vois. C'est que, tu sais, c'est un peu la parabole de la grenouille. Là, tu la fais chauffer petit à petit. Elle se rend pas compte qu'elle est en train de bouillir. Je pense que c'est un peu ça, tu vois. C'est, je connais beaucoup de gens qui, dans leur carrière, bon, ils la font petit à petit. Et puis, du coup, ils arrivent petit à petit, en fait, à être pris dans l'engrenage. Et tu te retrouves, en fait, à vraiment t'habituer un peu au système tel qu'il est. Bon, et puis derrière, faut payer l'école privée pour les gosses, et à chaque fois, t'as un peu ce désir de, oui, bon, voilà, quand j'aurai réussi, quand j'aurai fini ma carrière, après, je vais prendre ma retraite, et puis je vais faire une fondation, je vais me consacrer aux trucs sociaux. Il y a pas un mal à ça, tu vois, mais, t'as un peu cette mentalité-là. Et je pense que le fait que le hasard des choses ait fait que les choses sont passées un peu rapidement pour moi, ça a un peu fait que j'ai pas pu avoir cette illusion d'optique. Tu passes tout de suite du froid au chaud, tu passes tout de suite d'avoir pas une thune à être dans la Silicon Valley où il y a beaucoup trop de thunes qui circulent. Et tu vois, ce sentiment un peu de malaise et en fait, il y a quelque chose il faut faire quelque chose. Tu vois, il paraissait extrêmement évident.
En tout cas, t'as eu les bonnes intuitions, en tout cas, à l'époque, de changer rapidement, effectivement, pour ne pas, peut-être te retrouver à un moment donné coincé dans une carrière qui te correspondait pas. En tout cas, avec Base Impact, tu rêves de créer les services publics digitaux de demain, c'est-à-dire un service public citoyen. C'est ton fil rouge. Explique-nous, c'est quoi un service public citoyen ?
Alors, le service public citoyen, c'est une notion qu'on a développée en faisant Base Impact. C'est-à-dire que la mission de Base Impact, c'est d'aller créer une nouvelle génération de services publics grâce à la technologie. Donc, en fait, on essaie d'identifier des endroits des problèmes de société où on se dit, ah, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Grâce à la technologie, on va peut-être pouvoir créer de l'impact à grande échelle. Tu vois, par exemple, sur l'emploi, on a créé une technologie qui s'appelle Bob, qui est une intelligence artificielle qui permet d'accompagner les chercheurs d'emploi.
Et on va en parler,
avec lequel on a pu accompagner plus de 250 000 chercheurs d'emploi aujourd'hui en France et qu'on est en train de déployer dans plusieurs pays dans le monde, et puis évidemment que le Covid, ça s'accélère.
Ouais.
On a aussi pu travailler avec l'État de Californie pour rendre les violences policières plus transparentes.
Ça aujourd'hui encore, ça existe encore. C'est une application
Ça existe encore. Je pense qu'il faudrait évidemment la pousser beaucoup plus loin aujourd'hui. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est une bonne transition d'ailleurs pour parler du service public citoyen, en fait, parce qu'on se dit, bah, ce que nous on fait, on n'est qu'une petite partie enfin, on peut pas tout faire et on n'a pas vocation à tout faire. Par contre, il faudrait qu'il y ait une nouvelle génération de citoyens, enfin, d'entrepreneurs, en tout cas, qui se disent, comment est-ce que je peux aller contribuer à l'intérêt général? Comment est-ce que ces sujets-là, tu vois, on parlait par exemple des violences policières, il y a tout un pan de trucs à faire. Enfin, nous, on va essayer d'en faire autant que possible. Mais il faut que ce soit un mouvement, il faut pas qu'on soit les seuls. Et dans ce qu'on a vécu, on a vu, en fait, à la fois à quel point ça pouvait être vraiment... il y avait vraiment une énorme opportunité pour des gens de se saisir de ce sujet et en même temps aussi des blocages. Parce que, en fait, en tant qu'entrepreneur tech for good, comme on dit maintenant, on est un peu, quelque part, excuse-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Parce qu'en fait, on a un modèle un peu entre les deux où on est à la fois... on rejette à la fois le modèle, entre guillemets, Startup Nation, on va aller lever des millions et essayer de prendre des parts de marché au service public, on va essayer de disrupter le truc. Enfin, tu vois, on n'a pas forcément ce modèle, à la fois le modèle capitaliste de...
plutôt dans la co-construction, toi.
Voilà, plutôt dans la co-construction. Et puis en même temps, quand t'es dans la co-construction, ben, en fait, t'es un peu un allié, traditionnellement de ceux qui s'occupent de l'intérêt général, c'est-à-dire des États. Mais t'es pas entièrement un allié parce que t'en as au niveau de l'État qui te voit comme concurrent, puis t'as pas forcément aussi le même niveau de financement. Donc voilà, tu te retrouves un peu finalement à être, à parfois être un peu trop vertueux pour faire les modèles capitalistes qui fonctionnent, qui permettraient d'aller faire de la croissance sauvage. Et en même temps, trop ovni pour vraiment bénéficier du soutien des institutions.
Et en même temps, pour toi, c'est urgent effectivement de trouver cette troisième voie. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser aux grands acteurs du numérique privé, tu dis, des rôles dévolus au service public, hein. Pourquoi se préoccuper de l'existence de Pôle emploi lorsqu'on a LinkedIn, Indeed, Le Bon Coin? Tu dis aussi que les intérêts privés ne permettent pas toujours de garantir l'intérêt général et parce qu'il existe une différence entre servir les besoins du plus grand nombre et ceux de tous. Et ça, c'est vraiment à ça que tu veux t'attaquer.
Exactement. En fait, on a eu tout un mouvement de dénigrement du service public parce qu'on se dit, bon, il n'est pas assez moderne, il n'est pas assez efficace, pas assez agile, etc. Et en fait, ce n'est pas forcément faux. Donc, on a plein de boîtes privées qui réussissent très bien, qui voient les manquements et qui s'engouffrent dedans. Par contre, à force de parler d'efficacité du service public, on oublie un truc, c'est le sens, c'est les valeurs du service public. Le service public, à la base, c'est proposer un service qui est universel, c'est proposer un service qui n'a pas vocation forcément à être rentable, et justement d'aller aider ceux qui en ont le plus besoin, qui sont pas forcément ceux qui sont, en termes de start-up, ceux qui ont... une lifetime value supérieure au coût d'acquisition client, voilà, c'est vraiment pour aller dans le jargon. Et ça, il faut bien comprendre que dans les startups, c'est ça le sujet. Donc, on a beau avoir des startups très efficaces, tu regardes leur business model. Le business model, c'est comment est-ce que tu vas aller toucher les publics qui vont te rapporter plus d'argent que ce qui ne te coûte à aller les acquérir à travers la pub, etc. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, ça veut dire qu'on se coupe, enfin, on risque de couper beaucoup de gens qui en fait ont besoin du service public, qui sont pas forcément effectivement les profils les plus rentables. Ça veut aussi dire que tu vas créer des modèles économiques qui sont pas toujours vertueux. Tu vois, par exemple, sur le milieu de l'orientation scolaire, on veut pouvoir orienter les gens en fonction de ce qu'on pense être le mieux pour eux.
Oui.
Par contre, un modèle start-up, par défaut, va plutôt dire, bon, notre modèle, c'est avoir des rétrocommissions sur l'école vers laquelle on te pousse. Et donc, c'est pas du tout la même logique. Et en fait, on te crée plutôt un système... voilà, un système où on recommande aux gens les écoles qui peuvent payer le plus. Et donc tout ça, voilà, c'est un problème de système et il faut défendre les valeurs du service public.
Alors t'as publié un pacte, un manifeste, on connaît toutes les étapes de ce service public citoyen. Est-ce que t'es soutenu par les pouvoirs publics?
On a une oreille assez positive des services publics. Je pense que la grande question derrière, c'est comment est-ce qu'on en fait non pas quelque chose qui, à coup de petites anecdotes par-ci, par-là, on se dit, ouais, c'est super, ça bouge, mais comment est-ce qu'on a fait quelque chose qui est beaucoup plus généralisé? Donc, effectivement, ça bouge. On a le soutien du gouvernement, on a pu faire quelques collaborations, notamment sur certains de nos projets. Après, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, et la crise du Covid l'a aussi un peu montré, tu vois, il y a un peu un décalage là entre les énergies citoyennes qu'il y a, tu vois, tous les gens qui, tout le mouvement des makers pour aller construire des masques au moment où on avait été en pénurie.
Oui.
Et le côté quand même assez centralisateur de l'État où,
oui. On l'a grandement vu, oui.
On l'a vu, et si ça passe par nous, bah, ça se fait pas du tout. Et c'est ça qui reste encore un peu dommage.
Alors, justement, on le disait avec nos précédents invités de ce podcast, les entreprises à impact, les entreprises écologiques, sociales ont montré qu'elles étaient plus résilientes avec cette crise. Toi, avec Base Impact, ton projet, on va dire, le plus consistant en ce moment, eh bien, c'est Bob. C'est Bob que tu as créé. Tu as aidé 250 000 chercheurs d'emploi à bénéficier des conseils de Bob depuis sa création en 2016. On va justement faire le point sur ce projet de Bob qui a pris, comme tu le disais, une toute autre ampleur, toute autre couleur avec cette crise du coronavirus.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a créé, puisqu'on est une petite équipe maintenant d'une dizaine de personnes à Base Impact. Je tiens à le souligner parce que c'est
effectivement, tu n'es pas tout seul, il y a des personnes avec toi.
C'est un projet qui a été de longue haleine, effectivement. En fait, on a commencé, tu vois, de manière un peu naïve il y a plusieurs années en se disant, bon... il y a un sujet parce que il y a beaucoup de personnes au chômage aujourd'hui qui sont pas forcément accompagnées ou qui le sont, mais tu vois, par déficit c'est difficile en tout cas d'apporter un accompagnement personnalisé à des millions de personnes à cette échelle-là, ça coûte très cher, c'est compliqué. Lorsque on va aller faire leur recherche utilisateur, on voit qu'il y en a plusieurs qui se sentent parfois un peu seuls et qui sont un peu perdus dans leur recherche. Donc l'intuition de base, c'était que grâce aux données du marché du travail et avec un peu l'expérience collective de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché pour différentes personnes, on pourrait peut-être automatiser une partie du travail de diagnostic et de recommandation de quelles sont les meilleures stratégies pour aller retrouver un emploi. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup itéré dessus. Ça a mis des années à créer la technologie. Aujourd'hui, ça marche vraiment très bien. On a 90% des gens qui utilisent qui bénéficient de la plateforme, qui trouvent que les conseils leur ont été utiles. On a même 3 mois après, parmi les gens qui retrouvent un boulot, on a 45% qui disent que c'est un des conseils de Bob qui leur a donné un déclic. Ça évidemment, soit c'est gratuit, soit, enfin on peut le faire d'une manière qui passe à l'échelle. Donc
complément du coaching physique, hein, ça ne remplace pas forcément la personne, le conseiller en charge d'emploi.
Pas du tout, ça n'a pas du tout été la vocation. Nous, on pense que le mieux, effectivement, c'est que aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais même avant, C'est même si tu vas interviewer des conseillers Pôle emploi, ils disent tous qu'ils manquent de temps pour faire leur métier, pour vraiment passer du temps qualitatif et humain avec les gens. Donc l'idée, c'est pas au contraire de remplacer ça, c'est plutôt de dire comment est-ce que pour ceux qui sont plus autonomes, potentiellement tu peux faire une partie du travail plus informationnel de manière automatique, remote, les gens ils font ça, ils sont plus autonomes pour faire ça. Et derrière, ça libère à la fois plus de temps pour ceux qui sont moins autonomes, qui en ont plus besoin avec pour avoir du temps conseillé plus rapidement. Tu vois, par exemple, en Belgique, là où on travaille aussi avec Bob, en partenariat avec leur service public, il faut 4 mois en moyenne avant que quelqu'un qui s'inscrive au chômage voit un conseiller.
En 4 mois, effectivement, ça laisse du temps pour faire des choses.
Ça laisse du temps pour faire les choses, donc c'est là qu'on peut s'insérer avec Bob. Idéalement, à la fois, à l'issue des 4 mois, les conseillers ont plus de temps pour voir le chercheur d'emploi parce qu'une partie du travail aurait été faite, mais aussi peut-être que des gens, et ça c'était même pas possible avant, vu qu'on a pu avoir une partie du flux, les gens qui sont plus autonomes utiliser la partie digitale avec Bob, peut-être que même il y a des gens on pourrait leur faire prendre un raccourci et qu'ils aient pas à attendre 4 mois s'ils en ont besoin. Donc en tout cas c'est toute la logique, ça c'est quelque chose qui a mis du temps avant de le monter, parce qu'on a vraiment compris, je pense qu'on en a appris aussi, il y a des bouts où on était plus naïfs quand on a commencé. Et où, en grandissant, on a vu à quel point c'était important d'aller aussi embarquer les conseillers et de travailler vraiment main dans la main avec les pôles emploi autour du monde pour avoir vraiment ces synergies dont tu parles. Ça nous a mis du temps. Et là, effectivement, avec le Covid, ça, je pense, ça n'a pas toujours été facile, mais en tout cas, cette persévérance a été.
Apporter ses fruits, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, de toute façon, qui ont besoin de ces services-là, qui ont besoin d'accompagnement.
Alors malheureusement, c'est tout le paradoxe quand on fait une ONG, c'est qu'on aurait aimé qu'il n'y ait pas le Covid et que ça ne porte pas ses fruits. Enfin, en tout cas, qu'il n'y ait pas besoin de... Enfin, on aimerait qu'il n'y ait pas de chômage.
Bah oui.
Mais c'est vrai que là, en tout cas, on voit en tout cas l'intérêt d'avoir des modèles un peu alternatifs sur la Tech for Good. On voit que c'est un peu contracyclique là-dessus. Là, on est en situation où, enfin, pour nous, les demandes ont vraiment explosé parce qu'il y a plein de pays autour du monde qui n'avaient pas forcément de problématiques de chômage ou chômage de masse auparavant, comme aux États-Unis, où d'un coup, tu as à la fois une augmentation énorme du chômage qui fait qu'ils ont besoin de systèmes qui permettent de soutenir la charge. Donc, comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Bah, forcément, les algorithmes, là, c'est un peu intéressant. Et il n'y a pas de problématique de oulala, ça va remplacer les métiers des conseillers, puisque de toute façon tout le monde est débordé aux États-Unis. Il faut voir, il y a eu 40 millions de personnes qui ont pointé au chômage en l'espace d'un mois pendant le haut du Covid. Donc c'est vraiment pas quelque chose où les systèmes pouvaient tenir la charge. Donc d'une part, voilà, il y a ça, et d'autre part aussi, enfin pour des raisons sanitaires, le fait d'accueillir le public, ça devient très difficile. Donc l'un dans l'autre, en tout cas, avoir des solutions digitales pourrait vraiment pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas une disparition du service public lorsque t'as une crise sanitaire comme ça, mais au contraire qu'on puisse avoir des systèmes personnalisés qui sont disponibles à tous, et notamment grâce aux algorithmes. Alors ça, c'est pas toute la solution, mais c'en est une partie.
Alors justement, t'as récolté plus de 2 millions d'euros, c'était il y a quelques mois, pour vous internationaliser à Bezimpact, notamment via le fonds philanthropique de Google. Et tu parlais de la Belgique tout à l'heure, donc vous avez effectivement des demandes qui ont explosé. Il y a la Belgique, il y a effectivement les États-Unis qui vous ont demandé de les aider.
Effectivement, on a la demande de plusieurs pays, comme en Belgique, comme dans plusieurs États aux États-Unis et d'autres endroits où on est encore en cours de conversation. Ce qui est, je trouve vraiment très cool en tout cas, c'est que on a plutôt tendance à s'auto-dénigrer en France, en se pensant en retard par rapport à d'autres endroits où se passe l'innovation. Là, en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression que ça se retourne sur toutes les problématiques d'intérêt général. Au contraire, c'est des innovations qu'on a pu lancer en France, qui finalement sont extrêmement attractives dans d'autres endroits, notamment aux États-Unis, lorsque le marché allait bien, on va se le dire qu'il y en avait un peu rien à foutre. Je me souviens très bien de conversation lorsqu'on créait Bob il y a plusieurs années, où j'en parlais, j'ai encore des équipes aux États-Unis à l'époque aussi. Enfin, on en parlait même avec mes équipes qui étaient sensibilisées à tous ces sujets. Ils disaient, mais pourquoi tu vas aider les gens? Enfin, pourquoi tu veux faire un outil sur le chômage? Le chômage, ça sert à rien. Les gens n'en ont pas tant que ça. Et s'il y en a, c'est la preuve que l'économie marche pas, ou que les gens, ils sont pas assez autonomes. Donc, c'est leur problème. Enfin, tu vois, t'as une mentalité un peu américaine où on en parlait tout à l'heure. Cette notion de service public, elle est beaucoup moins forte. Et ça fait qu'ils s'y sont pas du tout intéressés ou très peu intéressés, contrairement à nous, dans les moments où l'économie tournait bien. et finalement qui se retrouvent un peu à poil lorsque ça se retourne. Et ça, je trouve ça assez fort, en tout cas sur la France, le fait qu'on se préoccupe de ces sujets sociaux. On a beau s'autodénigrer sur certains sujets, ça c'est en tout cas quelque chose qui je pense fait notre force. Et là on le voit dans la crise, en fait il y a beaucoup de solutions aux problèmes d'aujourd'hui qui finalement viennent d'entrepreneurs français.
Alors le service public citoyen, est-ce que du coup il y a d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui sont venues te voir en disant mais c'est vachement bien ton idée, moi j'ai envie de le faire aussi, est-ce que tu peux m'aider, est-ce qu'on peut travailler ensemble?
Ouais, tout à fait, on a vu alors ça va de gros en fait qui font déjà des trucs super comme tu penses à Article 1 qui est une super asso qui aide des centaines de milliers de jeunes lycéens à s'orienter. Mm-hmm. Qui se bah en fait c'est super, on peut avoir on peut aussi se renforcer dans l'écosystème parce que on a aussi des messages communs à faire passer sur comment est-ce que en tant que ONG on va pouvoir mieux collaborer avec le service public, et surtout lorsqu'on a la vocation à remplir quelque part une mission de service public dans l'orientation des jeunes, si on le fait à grande échelle, effectivement, c'est une mission de service public. Donc ça va, si tu veux, de grosses organisations à des petites, tu vois, des gens qui commencent, qui font des choses, j'ai discuté avec quelqu'un qui est monté une asso qui s'appelle Save Life, où en fait... c'est une application géolocalisée où tu as tout un réseau, je crois que tu as même des centaines de milliers de bénévoles, lorsqu'il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque à proximité, qui vont y aller. Ouais. Et qui dans une bonne partie des cas en fait arrivent plus vite que les secours.
Que les secours, oui.
Et donc ça c'est un bon exemple en fait de comment est-ce que on peut vraiment faire du service public l'affaire de tous. Et ce qui est vraiment très enthousiasmant, c'est aussi que, donc là je parle de gros, je parle de gens peut-être un peu plus petits, et il y a même aussi des gens qui n'ont pas encore lancé leur projet, des jeunes qui s'engagent et qui trouvent que, en fait, qu'il y avait souvent des idées, mais qui ne savaient pas forcément comment le faire, qui ont un peu l'impression que c'est impossible, ou humblement, enfin en tout cas, j'ai l'espoir que dans le tas, nos messages aient pu faire un peu une différence et peut-être créer aussi des vocations.
Il y a eu effectivement Bob qui a fait la différence pendant le coronavirus, mais vous avez aussi lancé une autre initiative, c'est briselachaîne.org.
C'est bien ça. Donc briselachaîne.org, c'est une sorte d'alternative au contact tracing. Enfin, à proprement parler, c'est une façon pour chaque citoyen de faire son propre contact tracing tout seul, en quelques minutes et en quelques clics. Donc c'est une application web, on n'a pas besoin de la télécharger. Et c'est à partir du moment où qu'on commence à avoir des symptômes, on n'a pas forcément besoin d'être diagnostiqué, testé, d'avoir le retour. Hein, on le voit aujourd'hui, ça rajoute un délai de plus d'une semaine qui en fait toute la différence. C'est un process qui est vraiment assez léger. Donc à partir du moment où on commence à avoir des symptômes, donc on a une suspicion du Covid, on passe un petit questionnaire qui nous aide à nous souvenir de qui est-ce qu'on a pu voir donc au moment où c'est frais. Donc en gros, on a digitalisé le questionnaire des enquêteurs des brigades sanitaires. Ça s'intègre avec ton téléphone pour que t'aies pas besoin de retaper toute l'information. Enfin, tu vois le numéro de téléphone de gens que t'as croisé ou de Marie, gnagnagna. Et à la fin, donc en quelques clics, tu fais ta liste de cas contacts et tu peux avec un clic leur envoyer un message préenregistré à partir de ton propre téléphone. Ce qui fait que à la fois, bah, il y a pas de truc centralisé, donc tout est privé. Il y a pas de données qui transitent sur aucun serveur. Et le message il vient de ta part. En fait c'est simplement une application pour faciliter le fait de dire aux gens, à tes potes ou à tes contacts, ah tiens, fais gaffe, on s'est vu il y a deux jours là au dîner de machin, et je pense que j'ai le Covid, donc fais gaffe. Enfin, c'est vraiment aussi bête que ça. Et finalement ça a permis à plusieurs milliers de personnes de s'en servir et d'alerter des personnes.
Et ça donc c'est encore disponible forcément.
Ah oui, c'est encore disponible, c'est disponible, c'est gratuit, c'est open source. On a même fait un partenariat avec l'équivalent du Doctissimo brésilien pour le lancer là-bas. Et là, on est aussi en discussion. Bah, tu parlais tout à l'heure de comment est-ce que le service public citoyen a été reçu en France. On est aussi en discussion avec les autorités. On croise les doigts sur potentiellement la seconde vague en France. Mm-hmm. De pouvoir diffuser aussi plus largement briselachaîne.org avec les points de contact officiels, c'est-à-dire lorsque les gens ont un diagnostic, lorsqu'ils vont chez le médecin et ainsi de suite.
Parce qu'on a vu que, par exemple, le Stop Covid, ça n'a pas trop marché. En revanche, hein, les gens n'ont pas du tout téléchargé et ça n'a pas du tout fonctionné, d'ailleurs. Pourquoi tu penses que ça n'a pas fonctionné, Stop Covid ?
Souvent, je pense que c'est plus efficace, en fait, d'aller faire confiance aux gens et d'aller aussi leur demander, par esprit citoyen, en fait, d'aller briser les chaînes de contamination. Parfois, c'est plus efficace qu'un côté un peu directif. Et puis, voilà, on force les gens à le faire, tu vois. Et ça, même, on le voit dans la vie de tous les jours, en fait, très souvent, c'est aussi par esprit de responsabilité, tu vois. Ouais. Si je me suis retrouvé dans une situation où, en fait, il y avait beaucoup de gens, et c'est pas très Covid friendly, voilà, ça arrive. Beaucoup spontanément vont faire le geste de tenir leur distance vis-à-vis de leurs parents âgés pendant une semaine ou deux, s'ils commencent à avoir un peu de fièvre, d'aller avertir les gens. Tout le monde le fait pas forcément, et c'est justement là que briser la chaîne est utile. Donc comment est-ce qu'on aide à la fois les gens qui savent pas qu'il faut le faire ou ceux qui savent qu'il faut le faire mais qui ont un peu la flemme de le faire, parce que bon, faut pas se le cacher, c'est un peu chiant d'aller écrire un texte à tout le monde et trouver les bons mots. Mais en tout cas, c'est une dynamique.
La solution, effectivement, de briser la chaîne est assez rapide et efficace et responsable. Je parlais de ta levée de fonds, plus de 2 millions d'euros il y a quelques mois. Ça va te permettre de souffler combien de temps, ça ?
Ça va nous permettre de... donc, c'est sur un plan, en fait, à 2 ans. C'est rigolo, parce que, bon, en tant qu'ONG, on n'a pas tendance souvent à fonctionner sur ce système un peu de levée de fonds philanthropique. Nous on a essayé justement de le proposer un peu comme ça, de dire bon, on va faire une sorte de seed round philanthropique, pour aller piquer le terme aux startups, pour aller se déployer à l'international, et puis aussi pour aller développer un peu un modèle qui va nous permettre de pérenniser notre action dans la durée.
Il y a quelques années, Paul paraissait la une du magazine Society. Vous lanciez Bob avec votre équipe et vous étiez lancé ce défi, hein, qui était de faire baisser le chômage de 10% à l'époque. Le journal a titré « Ce petit génie qui veut vaincre le chômage en France ». Alors, tu as été pris au mot, hein, et propulsé quelque part dans l'arène médiatique, pour le meilleur et pour le pire. Avec du recul, tu penses quoi de cette une ?
Très bonne question, parce que c'est en fait c'est d'ailleurs une qui a eu pas mal d'impact sur ma vie perso aussi, parce que ça a été un des facteurs qui fait que je suis rentré en France. Donc il y a quand même des bons côtés à ça. Alors l'histoire est en fait assez drôle, parce que cette phrase en une, c'est une phrase qu'en fait je n'ai jamais dite. qui était sorti hors contexte. En fait, ça venait d'une conférence que j'avais donnée, un truc un peu en mode TED, une conf qui s'appelle l'échappée volée. Où à l'époque, je vendais pas du tout Bob, parce que Bob n'existait pas. En fait, je donnais simplement un exemple de. En fait, je parlais de la vision de Base Impact qu'on faisait à l'époque uniquement aux États-Unis et sur d'autres sujets, d'utiliser les algorithmes au service du bien commun. Donc, à un moment où on parlait très peu, encore une fois, de tech ou data for good. Et donc, je donnais des exemples de ce qu'on faisait aux États-Unis, mais pour prendre un exemple qui parlait aux Français, je disais, imaginez par exemple sur l'emploi, ce qu'on pourrait faire, il serait possible, éventuellement grâce aux algorithmes, de réduire le chômage de 10%. Donc, c'était pour la phrase un peu choc de la conférence, mais en fait, je disais pas en mode, nous on va le faire, ou on va le faire dans, on promet qu'on va le faire dans tel laps de temps, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est plutôt pour dire, il faut avoir de l'espoir, et sur plein de sujets, on peut avoir en fait de l'impact.
Et c'est 10%, si quand tu dis ces 10%-là, tu te bases forcément sur quelque chose, sur des études que tu aurais faites, sur.
En fait, je disais, l'opportunité, elle est là. C'est que, on estimait à l'époque le chômage frictionnel,
oui.
Donc pas structurel, ça pouvait être 1 à 2 points du chômage.
Mmh.
Et que, donc c'était, tu vois, pour faire l'analogie avec les startups, j'imagine que tu en interview un peu sur le podcast. Les entrepreneurs vont tous se parler du marché total adressable. Ils disent, tiens, nous, on va attaquer le secteur de la vente de détail des chaussures. Enfin, je sais même pas si c'est une expression qui veut dire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, ça vaut 3 milliards au total. C'est pas dire que moi, je vais avoir une boîte qui vaut 3 milliards, mais c'est ça. Donc, c'est pour dire, il y a au moins une opportunité. Enfin, en fait, d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que c'est pas pour dire, regardez, l'impact fait tellement fort, ça va faire 10% du chômage. C'était plutôt pour dire, regardez, même à la marge, même si on prend, en fait, la partie du chômage qui est frictionnelle, ça fait déjà 10%. Donc il y a plein de choses, en tout cas, dans cette phrase qui était un peu à contresens de ce que je voulais dire. Après, donc finalement, il y a eu cette une. Bon, ça s'est passé. J'en ai d'ailleurs discuté avec les journalistes. En fait, cette une, c'était celle qui est juste après les attentats. à l'époque, en fait, ils m'ont dit que ça devait pas forcément faire la une, mais on a eu besoin, en fait, de faire un message d'espoir. Et puis, bah, désolé.
C'est tombé sur toi.
Voilà, désolé, c'est tombé sur toi. Donc, comme quoi, il y a beaucoup de hasard dans tout ça. Alors, personnellement, moi, je t'avoue un peu, c'était pas. En fait, c'était pas évident parce que. En fait, c'est pas quelque chose qu'on a cherché. Et puis, en plus, il y a une forme d'accélération médiatique où finalement, personnellement,
ça ne correspond pas toujours avec le développement aussi de la technologie, parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps aussi.
Oui, le temps des médias n'est pas celui du développement d'une technologie. Enfin, c'est quelque chose que tu fais sur l'itération pendant des années. Tu as des hauts, des bas, des fois tu galères, t'en ressors. Et puis aussi, même sur le point de vue perso, bah, c'est à la fois pas quelque chose que je cherchais.
Oui.
En plus, je rentrais en France, tu vois, je connaissais personne, donc tu vois, j'ai pas forcément de soutien moral là-dessus. Donc, j'avoue que j'étais un peu paumé. Et puis en plus, je t'avoue aussi que bon, les médias, c'est super, ça permet de faire connaître une action. Parfois, c'est aussi un peu violent. Mm-hmm. Puis je te passe ce que tu peux lire sur les réseaux sociaux. Donc, un des trucs que t'apprends en tout cas, c'est de ne pas lire les réseaux sociaux. Donc il y a eu du bon, du moins bon. En tout cas, mon but là, c'est pas critiquer les médias. Enfin, je pense que je vois ça avec philosophie. Ça a beaucoup changé ma vie parce qu'en fait, cette une s'est passée au moment où on se posait la question avec Abeilles Impact. On ne travaillait pas encore en France, justement, d'aller. Est-ce qu'on investit justement pour dire il faut passer à l'ambition supérieure? On va justement aller s'attaquer à des sujets de service public plutôt que de faire des petits projets par-ci par-là. Et cette une, ça m'a aussi convaincu qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait une, en fait, qu'il y avait aussi un mouvement, qu'il y avait un désir de crier quelque chose. Mmh. Là où ça faisait des années que tout le monde prenait pour un fou. Mmh. Et donc c'est là que je me suis, en fait, voilà. Là, il y a eu un moment où je me suis dit, peut-être que le prix à payer finalement pour avoir cette fenêtre d'opportunité d'aller essayer de changer les choses, bah, peut-être que le prix à payer, c'est aussi d'y laisser un peu une partie de sa vie privée, ouais. Et que bon, bah, faut le faire, et si je le fais pas, je regretterai.
Paul, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview des clics, et c'est parti. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer, surtout dans cette période très particulière?
Tu vois, tu me disais au début, là, je commence à vieillir. Je sais pas si je suis encore au stade de sagesse de pouvoir donner des conseils très judicieux, mais en tout cas...
Tu commences à avoir un petit peu l'expérience quand même.
C'est vrai, mine de rien, ça va faire 6-7 ans presque pour Base Impact. Enfin, waouh, d'ailleurs, ça donne un peu un coup de vieux d'y penser. Bah, un conseil, c'est... Alors c'est plutôt qu'il s'adresse à ceux qui ont pas forcément confiance en fait en eux pour se lancer, enfin qui ont des idées mais qui disent pourquoi moi. Mm-hmm. Expérience personnelle, tu vois, j'avais tellement pas confiance en moi lorsque j'ai monté Base Impact même au tout début, enfin qu'au début je voulais pas forcément le monter, et que lorsque je l'ai monté, j'ai demandé à un pote, et encore mais c'était même pas quelqu'un que je connaissais très bien, c'était le mec d'une pote qui m'avait l'air d'avoir beaucoup plus d'assurance que moi, d'être le CEO à ma place. Tellement j'avais pas confiance. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui lorsqu'ils racontent leur histoire, en fait, t'as l'impression que t'es une histoire en papier glacé. Tu vois, le fondateur, gna gna gna. Puis même moi, je pourrais dire, regardez, la une de Society, voilà, ça c'est moi.
C'est quand même de moins en moins le cas. Les gens quand même fouillent un petit peu et sont pas complètement naïfs aussi. Il y a toujours un petit peu quelque chose aussi.
C'est ça. Il y a toujours une part de. En fait, quand tu creuses, en fait, l'histoire est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. En tout cas, voilà, moi je l'avoue avec. J'avoue sans problème, j'avais vraiment pas confiance en moi au tout début. Et en fait, je pense que finalement, les personnes qui sont les mieux placées pour faire ce changement, c'est d'ailleurs paradoxalement les gens qui parfois ont pas confiance en eux.
Ouais.
Parce que, en fait, t'as un peu tout ce paradoxe-là où pour faire de l'impact, il faut avoir une forme d'engagement qui est assez forte. Mais il faut aussi une énorme résilience, parce que c'est vraiment pas facile au quotidien. Tu vois, les gens qui viennent en se disant bon, je fais de l'impact parce que j'ai envie de me lever tous les jours et être trop content de ce que je fais. Alors en fait, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Nous, il y a des périodes où tu te lèves et tu te demandes justement pourquoi tu fais ça. C'est la galère. Ton projet il marche pas, puis tu vas tomber à court de financement pendant un mois, et puis en fait tous les gens qui ont cru suffisamment en toi pour quitter leur job et venir bosser pour beaucoup moins d'argent chez toi, tu t'es même pas sûr de pouvoir payer leur salaire, qu'en plus il y a tout le monde dans les médias qui demandent alors vous en êtes tous des 10%, alors qu'en fait toi tu es en fait la réalité des choses, c'est que t'es un petit groupe là qui essaie de faire bouger les choses avec 3 francs 6 sous. Et c'est dur. Et ce qui te fait durer et qui te fait en sortir, finalement, c'est tant mieux qu'on ait bossé pendant des années, qu'on ait persévéré et qu'on voit que bah, c'est un peu contracyclique au moment où t'as des crises. C'est plutôt cool qu'on ait des bandes de fous qui aient mis des années à travailler sur quelque chose que personne pensait être un problème et qui finalement en est un.
Donc ton conseil, c'est
C'est à la fois persévérer, mais surtout en fait, faut avoir confiance en soi. Pardon, je sais que je suis parti un peu dans une grosse aparté, mais en fait, c'est un peu cette sincérité de l'engagement à la base qui est pas forcément corrélée avec avec ce qu'on pense être le propre de l'entrepreneur, qui nous donne la force dans ces moments durs de persévérer. Et voilà, c'est cette sincérité là qu'il faut cultiver, et si vous l'avez, même si vous n'avez pas confiance en vous, bah, il faut s'en saisir.
Donc on imagine que c'est le conseil que toi, tu aurais bien voulu avoir quand tu as démarré ta carrière.
Tout à fait.
Le ou la mentor que tu aurais voulu avoir?
En fait, il y a un peu un truc à prendre chez tout le monde, tu vois. Je pense que ça aurait été rigolo d'avoir aussi un Elon Musk comme mentor, parce qu'il n'y a vraiment pas tout à prendre, évidemment.
Oui.
Mais tu as quand même un côté ambitieux qui est vraiment fort, parce que tu vois, quelque chose qui m'a personnellement fait beaucoup de mal, tu vois, lorsque j'ai... Enfin, dans tous nos projets, dans les côtés qui étaient un peu plus violents, si tu veux, par rapport à ce qu'on faisait, un thème récurrent, c'était mais pour qui il se prend? C'est qui lui? Puis en fait, voilà. Et puis en fait, ce projet, tu vois, il y a deux façons de prendre, c'est histoire de 10% de chômage. Il y a un côté assez super. Il faut y aller. Et puis de toute façon, c'est non lucratif. Donc, pour l'impact, soyons ambitieux. Puis t'as l'autre côté qui est mais pour qui il se prend? Puis en fait, c'est quoi ses déclarations? Et en fait, il veut se vendre. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs là. Et tu vois un peu tous ces procès intentions. Parfois, ça peut faire du mal.
Ouais.
Et tu vois des gens un peu comme Elon Musk, ou encore une fois, bon, faut prendre le bon et laisser le mauvais. Mais tu vois le côté en fait, on a rien à foutre. Et puis si t'as des idées folles, il faut y aller. Je pense que ça, pour le coup, sur ces sujets un peu plus perso, je pense que ça m'aurait aidé à être plus résilient aussi.
Tu ne serais jamais devenu ce que tu es si.
Wow. Si j'avais pas galéré. Mes parents voulaient absolument que je fasse la voie royale. En plus, en tant qu'immigré, pour eux, ils avaient un peu, évidemment, ils voulaient le meilleur pour leurs enfants, donc. Ils auraient bien préféré que je sois que j'ai pas mon côté cancre à l'école, que je sois scolaire, que je fasse une prépa, que je fasse une grande école d'ingénieur et que j'ai mon poste de cadre, que je sois le fameux jeune cadre dynamique dans une boîte du CAC 40. Et tu sais, d'ailleurs, je croyais tellement que quand j'étais ado, je m'en voulais. Je me disais, c'est horrible, je suis pas capable d'être scolaire, je suis en train de décevoir mes parents, je suis en train de décevoir moi-même, voilà tout ça. Finalement, heureusement que j'ai galéré, que j'étais pas, que j'ai pas réussi à rentrer dans le moule, ça m'a permis de créer un peu mon propre chemin.
Ton plus bel échec, Paul?
Mon plus bel échec, c'est celui-là en fait. Mon plus bel échec, c'est de pas avoir réussi à rentrer dans le moule. Tout simplement.
Oh, c'est pas un échec.
C'est pas un échec, mais à l'époque, je l'avais vécu comme un échec.
Que dis-tu à celles et ceux qui t'écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment?
Faut se constituer une équipe. C'est super important, à la fois parce que c'est dur, et aussi parce que, en fait, faire de l'impact, c'est presque plus dur que faire de l'argent. Parce que quand tu veux faire de l'argent, tu fais un truc qui marche. T'as juste besoin de trouver ce qu'on appelle le product market fit, hein, en langage start-up.
Une bonne idée aussi, ça peut aider.
Pardon?
Une bonne idée aussi, ça peut aider.
Ouais, une bonne idée, mais aussi une bonne. Enfin, c'est tout dans l'exécution. En fait, ce que tu veux, c'est tu t'en fiches si le truc il a l'impact, tu veux que le truc il marche. Lorsque tu veux faire de l'impact, en fait, t'as le double problème, parce que tu veux avoir aussi une bonne idée, tu veux aussi avoir quelque chose qui aide des gens, qui a de l'impact. Mais en fait, si t'as de l'impact et que ton projet il marche pas, il grossit pas, t'as peu d'impact aussi. Donc en fait, c'est presque deux fois plus dur de faire de l'impact, parce que t'as à la fois besoin de faire un projet qui marche et qui est capable de passer à l'échelle, et en même temps, d'avoir un modèle qui est vertueux. Donc, dans tout ça, il faut se constituer une équipe, il faut avoir les reins solides, et surtout, faut pas avoir peur d'être ambitieux. Enfin, tu vois, ça fait un peu écho ce que je disais tout à l'heure sur le mentor que j'aurais aimé avoir. En fait, tu commences un peu par dérouler la pelote et tu dis je vais faire ça, j'aimerais bien lutter contre le gaspillage alimentaire. Zut, en fait, ça demande de changer comment la façon dont fonctionne la grande distribution. En fait, il y a des lois à changer. En fait, plus tu tires sur le fil et plus et tu te rends compte qu'il faut prendre toute la pelote. Et tôt ou tard, en fait, tu te rends compte que c'est le système qu'il faut changer et il faut pas avoir peur d'être ambitieux.
Sincérité, ambition, en tout cas, c'est ce qu'on retient de cette interview Déclic avec toi, Paul. Merci beaucoup.
Merci.
Où peut-on prendre des nouvelles de tes projets? J'imagine que vous êtes sur les réseaux sociaux, que tu ne lis pas, mais vous êtes sur les réseaux sociaux.
On est sur les réseaux sociaux, donc on a, comme tout le monde, hein, Facebook, un Twitter, le @BaseImpact, le mien c'est @PYDuran.
On peut lire en tout cas sur BaseImpact ton pacte pour un public, service public citoyen. On peut effectivement aller un peu creuser là-bas. Et donc on peut te suivre un peu partout sur les réseaux sociaux et sur Base Impact et surtout aussi briserlachaîne.org.
C'est ça, donc si vous commencez à avoir la fièvre, n'hésitez pas à utiliser briserlachaîne.org. Et puis si vous avez des idées, que vous n'êtes pas sûr de si c'est la bonne personne pour faire cet impact, n'hésitez pas aussi à me contacter directement. Je suis toujours ravi de, si je peux aider.
Merci beaucoup Paul en tout cas.
Merci.
Et très très bonne route à toi et à Base Impact.
Merci Sylvia.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à David Führer pour la prise de son. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage. Retrouvez-nous dans notre nouvelle rubrique Impact Positif sur lci.fr avec plein d'autres contenus. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @ipositif au pluriel, sur mon compte Sylvia Micone, sans oublier Instagram, impactpositif.podcast. J'attends vos commentaires, vos suggestions, vos impressions et si vous avez passé un moment inspirant, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles pour nous soutenir. À très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.